On enchaîne sur l'enquête. Il va être question toujours un peu des mêmes interrogations fondamentales concernant l'accès aux ressources, les problèmes de logiciels, etc. On ne peut pas vous la présenter de manière exhaustive, ça va être forcément un petit peu du rapide. Il faut qu'on gagne du temps par rapport à l'emploi du temps si on veut commencer les ateliers. Quand même, un petit éclairage sur cette enquête. Alors, tu commences peut-être à présenter, Eric, le savatoire, rappeler un peu ce que c'est, ce qu'on a voulu faire.
Oui, très rapidement. Donc, on va vous présenter les résultats d'une enquête qui a été menée au premier trimestre 2007. Cette enquête, elle a été faite dans le cadre de nos travaux à l'Observatoire des pratiques géomatiques, donc à l'INRP. Alors, cet observatoire, le contexte, c'est bon, un travail qui se fait d'abord sur les outils accessibles aux enseignants. Vous avez peut-être entendu parler de Géonote, hein, qui est un produit libre qui est diffusé sur notre site. On a un travail d'expertise également au travers, par exemple, de l'organisation de ce type de journée auprès des enseignants. On travaille en recherche, c'est-à-dire qu'on teste des dispositifs dans les classes et on y a un travail didactique d'analyse des apprentissages des élèves dans des contextes géomatiques. Et puis, il y a la mise à disposition de ressources pour les formateurs et les enseignants. Pour l'instant, c'est un démarrage, mais on se place également sur ce créneau-là. Donc, on est là dans cette équipe pour travailler sur les usages des enseignants et les apprentissages des élèves.
Voilà. Alors, deux objectifs majeurs dans l'enquête. Hein. D'abord, connaître les pratiques. C'est très difficile de savoir ce que font les enseignants. En plus, on est sur du déclaratif. Donc, il faudra aller dans les classes, faire l'observation de classe. On est bien conscient. Simplement, quand même, c'est intéressant de faire des enquêtes de temps en temps. On a pu voir quand même des choses concernant les outils et ce que veulent les enseignants. C'est intéressant, y compris pour le ministère, pour voir aussi qu'est-ce qui serait, par exemple, tout à l'heure, par rapport au niveau 1, 2, 3, les outils, les ressources qui seraient attendues par les enseignants. Je crois que c'est intéressant de ce point de vue-là. La deuxième chose, c'est connaître les points de vue des enseignants sur ces technologies. Est-ce que c'est un intérêt pour leur discipline? Est-ce qu'il y a des problèmes? Est-ce que les problèmes sont seulement techniques? Est-ce qu'il y a des besoins y compris pédagogiques? Donc, si vous voulez, c'était un peu pour répondre à ces questions, somme toute assez générales, qu'on se pose à propos des outils géomatiques, qu'on a fait cette enquête.
Alors, quand même, un point sur la méthodologie qu'on a mis en œuvre. Bon, il s'agissait d'un questionnaire en ligne, et là, je remercie toutes les personnes qui, j'en suis sûr qu'il y en a parmi vous, qui ont diffusé les liens vers cette enquête. Il y avait 24 questions dans notre questionnaire, bon, qui a été diffusé sur le site de l'INRP, je l'avais dit. Donc sur le mode de diffusion, donc c'est sur les listes de diffusion académiques, sur les listes de diffusion par exemple des Clionautes, que je remercie également. 862 enseignants ont répondu à cette enquête, et c'est à peu près moitié-moitié histoire, géographie et sciences de la vie et de la Terre. Alors du point de vue du traitement des résultats, nous on travaille avec une statisticienne qui nous permet de trier un petit peu parmi ces données. Bon, il y a eu la suppression d'individus qui étaient hors champ, hein. Il y a eu des doublons, il y a eu des recodages de questions ouvertes. On a fait une analyse descriptive de ces données. Bon, le travail est encore en cours, il n'est pas terminé. On a énormément de corpus là à traiter. Mais en tout cas, ce que montrent nos premiers éléments, c'est que la méthodologie a fait qu'on a plutôt touché un public averti. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, une proportion importante de personnes qui sont motivées par ces technologies. On a un pourcentage important de personnes qui exercent des fonctions de type formateur, de type responsable de cabinet ou responsable de laboratoire. Donc, notre échantillon n'est pas représentatif de la population enseignante, ça c'est sûr. Mais par contre, il va nous permettre de dégager un certain nombre de tendances du point de vue des usages. Il va nous permettre également de comparer historiens géographes et biologistes géologues.
Voilà. Alors, quelques premiers résultats. Donc, si on regarde d'abord au niveau des usages privés, hein, les enseignants utilisent beaucoup de logiciels grand public, hein, en tant qu'utilisateur lambda. Calcul d'itinéraire, ce que tout le monde fait maintenant, on va sur Mappy, etc. On utilise un logiciel de calcul d'itinéraire, un GPS. Alors, regardez, les taux sont assez élevés, hein, 93% des enseignants, 26% ont un GPS, l'utilisent à titre personnel. Ça commence à faire beaucoup, hein, parce qu'un quart des enseignants ont un GPS. Alors, de l'échantillon que nous avons eu. Hein. On est sûrement sur des chiffres un peu élevés, mais ça fait rien quand même. On avait aussi des enseignants, je veux dire, qui n'étaient pas des technophiles ou, je veux dire, on avait un petit peu de tout aussi, même si c'était surreprésenté. Logiciels d'orientation qui arrivent également, alors que ce sont des logiciels déjà dédiés, hein, pour par exemple des usages, tout ce qui est calcul de courses d'orientation, tout ce qui est savoir s'orienter également dans l'espace, perception de l'espace. Donc ce sont des choses déjà un peu techniques et que les enseignants commencent à utiliser à titre privé. C'est ça qui est intéressant. C'est certainement par les usages privés et non pas par les usages scolaires que les choses sont en train de bouger. Hein.
Oui, puis quand on regarde quels sont les enseignants qui n'utilisent pas MAPI, par exemple, ce sont des gens qui viennent des DOM ou des TOM. Donc on comprend très bien que quand on est en Nouvelle-Calédonie, l'itinéraire, on le connaît à peu près.
Oui.
Alors, du point de vue maintenant des outils qui sont utilisés, bon, ce qu'on peut dire, c'est évidemment que Google Earth a fait très fort au niveau du taux d'utilisation et de pénétration parmi les enseignants. Là, les deux couleurs distinguent d'une part des usages qu'on considère personnels. C'est ce que fait l'enseignant le soir chez lui ou devant son ordinateur. Peut-être pour ses élèves, mais en tout cas, c'est tout seul. Et en bleu, c'est en classe. Alors, on voit, les deux produits qui arrivent en tête ici sont Google Earth et Géoportail. Alors, Google Earth, on s'y attendait un petit peu moins pour Géoportail, parce que je vous rappelle qu'il est beaucoup, beaucoup plus récent, et qu'en plus, en termes de fonctionnalités d'édition, eh bien, on a beaucoup moins de possibilités actuellement. Mais malgré tout, je crois que c'est intéressant de voir que les enseignants se sont quand même portés sur Géoportail. Alors après, le ratio utilisation en classe est plus faible pour Géoportail. Mais ça, c'est probablement pour les raisons que j'ai indiquées précédemment. Alors du coup, on voit que la géomatique, les enseignants y arrivent par les globes virtuels, par ces outils qui sont des outils grand public.
Voilà. Alors juste un mot sur Worldwin, qui est davantage utilisé en SVT qu'en histoire-géographie. C'est normal, il est plus dédié scientifique. Hein, on a plus d'images satellitales, etc. Donc c'est normal. Là, on n'a pas fait le distinguo, mais dans le détail, quand on va publier le rapport de cette enquête, vous aurez les détails complets avec comparaison SVT, histoire-géographie, qui pourra intéresser un certain nombre d'entre vous. Alors, quand on regarde maintenant les outils utilisés en classe, alors c'est un peu différent. Hein. Regardez, les SIG arrivent seulement loin derrière. On est à peine à 20-21% d'utilisateurs. Alors, c'est intéressant, on a un petit point de comparaison. Les Clionautes, avec le Café Pédagogique, avaient fait une enquête sur les pratiques cartographiques en 2003, donc il y a environ 4 ans. On était à peine à 5% d'utilisateurs de SIG. Là, on serait à 21%. Même si notre chiffre est certainement un peu élevé, on peut estimer qu'il y a certainement, même si on le divise par deux, il y a au moins 10% de gens qui commencent à utiliser. Donc, je crois que c'est en pleine progression. Alors, est-ce lié ou pas au phénomène Google Earth, au phénomène des globes virtuels? Ça, c'est une autre question. Mais en tous les cas, il y a certainement un essor des pratiques cartographiques et qui passe par des logiciels de cartographie. Regardez, on a des pourcentages assez forts. Là, on est à 30-31%. De manière générale, mais en histoire-géographie, aujourd'hui, vous avez 44% des enseignants. Alors, on comprend pourquoi, parce que l'épreuve de cartographie au bac, etc., la cartographie fait partie des savoir-faire fondamentaux de la discipline, mais on est sur des chiffres qui sont assez élevés. Presque la moitié des enseignants d'histoire-géographie font de la cartographie sur ordinateur, et aussi bien avec leurs élèves qu'à titre personnel. Et donc, on est sur actuellement un essor des pratiques cartographiques. On peut estimer que les SIG sont en train d'en profiter. Hein. Tout doucement, ils montent. Mais sur une courbe ascendante qui est beaucoup plus lente que la courbe ascendante de Google Earth ou de Géoportail. Vous voyez, on n'est pas du tout dans les mêmes rythmes. Enfin, dernier mot sur les bases de données et les images satellitales. Dès qu'il s'agit de logiciels de traitement et non pas d'outils de visualisation, parce qu'on voit très fortement dans Google Earth, dans Géoportail, on est quand même avant tout sur la visualisation, l'exploration visuelle. Là, dès qu'il s'agit de traiter de la donnée, c'est-à-dire de manière un peu technique, hein, de travailler sur des statistiques, de faire de la discrétisation, qu'il s'agisse d'utiliser Titus, par exemple, pour le logiciel de traitement d'images satellites, ou qu'il s'agisse d'utiliser des bases de données, hein, à référence spatiale, on est là sur déjà le niveau 3, comme on disait tout à l'heure, c'est-à-dire quelque chose déjà réservé un petit peu par une élite, mais à des gens déjà avancés. Et on voit bien que là, il y a un hiatus hein, entre des pratiques grand public qui entrent très fortement à l'école et des pratiques déjà plus des savoir-faire qui sont davantage orientés sur la discipline et plus techniques, entre guillemets, où là, on est sur des chiffres beaucoup plus bas, mais malgré tout, quand même, plus de 20%. Hein, donc, on peut voir le vase à moitié plein ou à moitié vide, hein, tout dépend comment on voit les choses. Mais on est très nettement en retrait, en tout cas. Moins de traitement, surtout de la visualisation. En gros, si je résume, on peut imaginer que dans les images numériques, tout en bas, là vous avez 80% d'utilisateurs, on peut imaginer que sur vidéoprojecteur, des enseignants montent des très belles images satellites sans faire les traitements dessus. Ce qui est déjà pas mal, mais c'est de l'image fausse couleur. D'accord ?
Alors, On a interrogé également les enseignants à partir de questions ouvertes sur les SIG qui étaient utilisés dans leur classe. On a des produits ici, on a tout mis dans les SIG, hein, mais qui sont de nature diverse. On s'aperçoit au travers de ce que l'on a fait, que, de ce qu'on a comme réponse, qu'aucun SIG ne se détache actuellement. C'est-à-dire que les enseignants n'ont pas porté leur dévolu sur un outil qu'ils auraient considéré comme étant un produit adapté à l'éducation. Mais il y a une grande diversité. On a mis là le top 5 des logiciels qui sont utilisés. Mais il y en a bien d'autres qui sont cités dans notre enquête. Et on peut dire que, du coup, les enseignants, là, sont, je crois, à la recherche de l'outil qui ira bien pour travailler en collège et en lycée. Donc une grande diversité, mais aucun SIG ne se détache.
Oui, juste un commentaire. On a quand même pêle-mêle là, dans ces top 5. Ce top 5, on a pêle-mêle des SIG professionnels, type Geomedia, ArcView, MapInfo. On a un visualiseur, Arc Explorer, qui est déjà d'un niveau, on va dire, 2 par rapport au niveau 3. Et on a FGIS, un logiciel libre. Qui s'est beaucoup développé, qui a été préconisé à un moment donné par le ministère, qui est actuellement est beaucoup utilisé dans les classes, et on voit une percée du logiciel libre. Donc effectivement, pas de vraiment de d'outils dédiés en tant que tel. Alors sur les fonctionnalités.
Alors j'ai les paires, tu as les impaires. Je te le rappelle parce qu'il a déjà commencé à s'étirer.
Là j'ai les impaires. Là je suis sur un impair.
Attends, ok, vas-y.
Terrible. On fait un duo de choc. Vous imaginez.
Non, et ça, on compte le temps de parole à la seconde près, voilà. Ça vous rappellera des choses.
Et après, non, mais on est pour la parité SVT histoire-géographie, rassurez-vous. Et d'ailleurs, dans la salle, il y a aussi bien des historiens-géographes que des géologues et sciences du vivant. Simplement, cette diapositive appellerait beaucoup de commentaires, mais on a essayé de simplifier, de classer. On voit tout en bas l'utilisation, l'usage pour visualiser, accéder à des images et les visualiser. Des images construites par d'autres, des cartes faites par d'autres. Guy Ménan disait tout à l'heure, on aimerait bien que les élèves construisent leur propre carte. Il y a un homme un jour qui a fait une carte, qui n'est pas forcément l'élève, qui n'est pas forcément le professeur, mais la carte a été prise sur Internet. Qui a fait la carte ? Donc on utilise massivement des cartes, des images en classe faites par d'autres. Bon, ça on le savait, mais alors là on a une confirmation, c'est massif. Plus de 80%, c'est... Alors l'image 3D arrive fortement, elle arrive à 60-70%. Donc on voit la percée de l'image 3D qui implique évidemment, effectivement d'autres choses en termes de visualisation. Et puis derrière, un peu plus loin, les fonctions de traitement. Alors on a les croisements de couches, les requêtes, le traitement d'images satellitales. Donc là, on est sur des fonctions, on va dire, plus évoluées. Mais malgré tout, regardez, mesure de distance. Savoir utiliser une échelle, mesurer une distance sur une carte, etc. C'est quelque chose aujourd'hui, une compétence qui est pratiquement acquise par les enseignants. On est là, on n'est pas au niveau élève, on est au niveau enseignant. Enfin, les fonctions d'édition dont on parlait tout à l'heure par rapport à GeoEdu. Les fonctions d'édition paraissent fondamentales. Il n'y a pas tellement d'enseignants qui savent, par exemple, produire leurs propres cartes. On descend à 40-45%. À peine la moitié des enseignants font leurs cartes eux-mêmes. Ils utilisent des cartes faites par d'autres. Donc là, on voit bien qu'il y a une différence. Et puis, lorsqu'il s'agit carrément d'intégrer des données, d'aller sur le terrain, de faire des relevés GPS... Là, on entre dans un domaine qui est un peu plus difficile, un peu plus technique. Et donc, on tombe à des taux, par exemple, recueil de données sur le terrain, 15%. Mais c'est quand même 15%. Donc, c'est pas négligeable non plus. C'est ce que montre l'enquête.
Oui, simplement une précision. Oui, Sylvain va vite parce que là, on est pressé par le temps. Là, on n'a pas mesuré les compétences des enseignants. On a essayé de mesurer ce qu'ils font dans les classes. Alors effectivement, ce qu'ils font dans les classes, on est plutôt du côté de l'utilisation, la visualisation, et on a moins de choses du côté du traitement et l'édition de données. Mais on a quand même beaucoup de choses et des choses qui sont très très variées. Alors, quels sont les thèmes maintenant qui sont traités par les enseignants et dans quel contexte ? Là, j'ai fait simplement un copier-coller des réponses aux questions ouvertes des enseignants. C'est uniquement des enseignants de sciences de la vie et de la terre, mais on aurait pu le faire également pour les historiens et géographes. Et ce qui apparaît à travers cet inventaire à l'après-verre, en fait, c'est qu'on a des choses extrêmement diverses. Il y a des gens qui travaillent avec ces outils pour travailler sur les trajets migratoires d'oiseaux, d'autres sur le risque sismique, d'autres font de la botanique, de l'épidémiologie. Ce qui nous semble intéressant, c'est qu'on a une grande diversité des thématiques qu'on se retrouve avec là des outils qui sont un petit peu génériques et qui permettent d'aborder de nombreux thèmes en classe et donc qui présentent un certain intérêt.
Voilà. Alors, les freins maintenant. Les dernières questions portaient sur les attentes, mais également les freins ressentis par les enseignants. Alors, quelque chose qu'on savait depuis longtemps, c'est que la lourdeur de l'outil, le coût d'acquisition des données, un certain nombre de problèmes, on va dire, matériels, faisaient obstacle. Donc là, on en a confirmation. Le coût des logiciels, encore 72% malgré les logiciels libres. La prise en main, 69%. Le problème de coût des données, 68%. Donc on est sur des chiffres très élevés. Ce qui est nouveau pour nous, c'est le fait, par exemple, que des enseignants à 69% nous disent « on manque de données adaptées au contexte éducatif ». Alors là, c'est déjà un peu différent. La donnée, on l'a, mais elle est trop technique. Quand la donnée, elle est produite, par exemple, par le Grand Lyon, moi, quand je vais voir le Grand Lyon, qui, comme je le disais tout à l'heure, nous a généreusement prêté des données pour faire des expérimentations pédagogiques, on se retrouve avec la donnée où on a les données par rue, avec les façades, etc. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de ça? Donc, on est obligé, des enseignants, on voit très bien que certains enseignants vont mouliner des jeux de données qui vont être utilisés par d'autres, parce que va falloir, pour tourner un jeu de données de manière pédagogique, hein, il y aura un atelier tout à l'heure où on voit un projet chaîne, où, notamment avec Claude Arnaud, où il a été question de construire carrément un jeu de données pédagogique là, hein, parce que on voit bien qu'il faut extraire de la donnée. Hein, elle est agrégée, il faut la désagréger, il faut voir en quoi elle est compatible avec les programmes. Donc ça pose de nombreux problèmes. Donc manque de données adaptées au contexte éducatif et on nous dit manque d'applications pédagogiques. Alors d'exemples d'applications, c'est-à-dire que les enseignants sont à la recherche aussi de ce que font les autres, donc de partager, de mutualiser, ce qu'on disait tout à l'heure, mais aussi peut-être d'avoir des scénarios. Je pense que ces outils demandent de la scénarisation. La scénarisation pour la prise en main des tutorats, mais aussi la scénarisation pour l'activité en termes d'apprentissage. On voit très bien que ces outils, ça part dans tous les sens. On fait de l'analyse spatiale, on fait du traitement statistique, on fait du traitement d'image. En même temps, on manipule de la donnée qualitative ou quantitative. Donc, on voit très bien que ces outils, ils partent vraiment dans différentes directions. Et il va falloir quand même savoir les scénarios pédagogiques qu'on construit dessus et qu'on partage. Et là, il y a une demande. Donc la nouveauté, elle n'est pas tellement au niveau des problèmes matériels qu'on connaissait, qui sont toujours là, qu'il va falloir lever, qui ne sont toujours pas levés, mais aussi au niveau des problèmes pédagogiques. Donc des freins qui sont pour nous technico-pédagogiques, les deux étant liés.
On a essayé de chercher quelques éléments de comparaison entre géologues et géographes. Bon, il y a des choses qui sont partagées, hein. L'utilisation de cartes numériques, c'est quelque chose qui nous rapproche tous. Et puis il y a des choses qui nous distinguent également. Les géographes, vous voyez, sont en vert. Bon, ils sont bien dans ils savent faire l'intégration de données à la carte, la production de cartes. C'est apparemment des choses que les enseignants font d'histoire-géographie font dans les classes et que les sciences de la vie de la Terre font un petit peu moins. Et inversement, le traitement d'images satellitales, c'est du côté des SVT. Et ce qui distingue également les SVT, c'est le recueil de données sur le terrain. On le verra également à travers certains ateliers. Donc là, il y a quelque part le poids de la discipline, hein, de la formation initiale sur les enseignants et les compétences que veulent développer les enseignants. Mais il y a quand même l'occasion de mutualiser les démarches et les outils.
Alors, on n'a pas fait de corrélation, mais la deuxième étape, ça va être de corréler certains items. Par exemple, on retrouve le problème de la production de cartes, voyez, par rapport à tout à l'heure où on voyait les fonctions de traitement, de production, d'édition. Donc, on va faire des indices de corrélation, on ne l'a pas fait encore. Hein, donc, on ne peut pas vous présenter des choses exhaustives. C'est en cours de traitement par la statisticienne. Conclusion, c'est pair ou c'est impair ? Numéro 13. Donc, des pratiques, je vais me contenter de lire le texte, des pratiques qui émergent et qu'il faudra accompagner. Hein. Il y a des pratiques sur le terrain, hein, elles existent. Je crois qu'on ne peut pas faire de la recherche pédagogique et l'INRP, la présentation qui a été faite ce matin par le directeur, nous faisons de la recherche ancrée sur des pratiques. Nous ne faisons pas de la recherche de laboratoire éthérée. Donc, on part des pratiques. Je crois que c'est important d'abord les repérer, ces pratiques, savoir quelles elles sont, en quoi elles consistent et comment on peut les accompagner.
Alors si je complète, hein, parce que l'accompagnement, on le voit émerger, l'accompagnement ça peut être un accompagnement technique, hein, simplement la mise à disposition de données pour les enseignants, je crois que les choses vont dans ce sens-là, mais il y a d'autres aspects, hein. Je crois qu'il y a des dimensions, il ne faut pas oublier la formation, je crois que ça sera important d'y penser.
C'est pour faire attention. Voilà, les besoins en formation, merci Eric. Bon, la formation, on a par exemple proposé cette année une formation de formateur à l'INRP qui va avoir lieu en 2008, se pose sans arrêt la question, est-ce qu'on montre des logiciels, est-ce qu'on montre des fonctionnalités, est-ce qu'on montre des compétences disciplinaires, est-ce qu'on montre, vous voyez, donc on voit très bien, et tous ceux qui ont fait des stages TIS connaissent le problème, on forme à l'outil beaucoup et assez peu finalement à ce qu'il y a derrière. Hein. Alors même si on s'en garde beaucoup, hein, parce qu'il y a la prise en main de l'outil aussi, quoi qu'on en dise. Donc, besoin en formation, c'est certain, mais formation sur quel plan, hein, et c'est une grande question. Enfin, des attentes fortes en termes de solutions pour l'éducation. On est content de voir qu'il y a des initiatives, que ça bouge. Hein. Depuis 10 ans, les SIG ont du mal à percer. Alors, tout à l'heure, c'était intéressant, je n'ai pas commenté, il y avait seulement 24% des enseignants qui disaient qu'il fallait changer les programmes, qu'il fallait adapter les programmes. Apparemment, les programmes ne sont pas vus comme un obstacle pour la, du moins pas trop, hein, seulement un quart, jugent que c'est un obstacle pour la mise en œuvre de ces outils-là. Et pareil pour les examens, on a beaucoup critiqué en disant l'examen final ne tient pas compte de l'ordinateur, de la carte sur ordinateur, c'est pour cela que les pratiques cartographiques continueront toujours à se faire à la main et que la carte par ordinateur n'a pas en tant que telle de statut à l'école. C'est pas vrai, on voit que pour eux c'est pas un obstacle, hein, en tant que tel, c'est pas le premier en tout cas. Voilà, on vous remercie, on va passer aux ateliers. Pour aller plus loin, notre site...
Peut-être on peut laisser une ou deux questions, même si, c'est vrai qu'on a une demi-heure de retard. On a prévu 2 heures pour le repas de midi, donc 1h30 suffiront. Donc je pense que les ateliers pourront avoir lieu de midi à midi et demi. Mais si vous avez une ou deux questions, on peut essayer d'y répondre immédiatement. Bon, ben il y en a pas, c'est parfait.
Question. Alors les ateliers.
Donc j'invite les modérateurs et les secrétaires des ateliers à se rendre dans les salles respectives. Vous trouverez devant les salles des ateliers qui sont affichés. L'atelier numéro 1 va avoir lieu ici. J'en serai le modérateur. Ensuite, dès que vous avez terminé, rendez-vous au restaurant. On sera dans la même salle et puis on pourra déjeuner ensemble et continuer les discussions.